Nous sommes mercredi 29 novembre 2017, il est 21h,
Bar.
vous faites toujours plumer par Electronic Arts, c'est le dojo bar.
Bar.
Bonjour.
Bonsoir à tous, c'est un honneur, un privilège de présenter cette émission accompagnée de Antix.
Comme d'hab, bonsoir.
Comme d'hab, effectivement, accompagné de Monsieur Drosgar.
Comme d'hab, sauf la semaine dernière, parce que j'avais la flemme, lol, MDR.
Et qui a le barreau, hein, apparemment, puisque c'est la nouvelle du jour. Monsieur Galaxies.
Bonsoir.
Qui vieillit tous les jours un peu plus. Tous les jours, il se rapproche un petit peu
de la majorité.
Voilà, bientôt, il sera mature. De Mecton, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre cette semaine encore.
Test, test, un, deux, test.
Et de Monsieur Zergy.
Salut.
Grand habitué du Dojo Bar maintenant. Le sujet de ce Dojo Bar sera les loot box. Est-ce que c'est des jeux d'argent? Est-ce que c'est pas des jeux d'argent? Est-ce que certains ont abusé du système et ont essayé de faire passer quelque chose de complètement innocent pour un jeu d'argent?
Spoiler, oui.
Spoiler, peut-être oui. En tout cas, il y a quelques législations qui commencent à le considérer. On va essayer de balayer le sujet de la manière la plus comment dire? Large possible.
Objectif, non.
Du coup, objectivement, c'est pas faire. Objectivement, c'est pas faire.
À travers la question, la loot box est-elle la Dark Soulsisation du coffre au trésor de Dark Souls?
Je traiterai cette question en trois parties avec 1. Oui, Starfula. 2. Non, Gameblog en exemple.
3. Consensus. Oh, il a dit sus.
Il a dit con, lol.
Voilà, donc thèse, antithèse, foutaise, comme d'habitude. Voilà. Comme ça, on est bien. Putain, vous ne me simplifiez pas la vie. Hein. Cette émission démarre sur le chapeau de roue. Mais nous allons commencer tout d'abord par notre traditionnel tour de table de l'actualité. Galaxies va nous parler de son activité préférée du matin. Non, ce n'est pas la masturbation.
Merde.
C'est manger des céréales.
Ouais. Manger des céréales. Et qu'est-ce qui est mieux que manger des céréales? Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé?
Des tartines à la confiture.
Non, manger des céréales Nintendo.
Oui,
parce
ça
que
c'est
t'as
bien.
Pas de tartine à la confiture de Nintendo.
Oh, ça peut se trouver, je suis sûr, de la confiture de Pikmin.
Oh putain,
le ah non, assez ignoble.
Bref, attendez.
La question c'est, est-ce que
les
ça a
céréales.
Le goût de carotte?
Ça coûte.
Attends,
quoi?
Le Pikmin, ça a
ah,
le goût
les
de carotte en toute logique.
Je sais pas.
Hein. Non, parce mais déjà, imagine ce qui se passe pendant qu'ils sont en train de compresser les maxer Pikmin pour pouvoir les mettre dans pour en
ça
faire
fait
la confiture. La
mission, elle a commencé, c'est déjà les en roue libre.
C'est incroyable. Si tu fais de la confiture de Pikmin violet. Ça devrait avoir le goût de myrtille.
Je profite de cette pub pour signaler que les chaînes SFR Sports sont gratuites pendant un mois.
Mais ta gueule, putain. Arrête,
donc,
alors,
Galaxy,
la
Nintendo.
Prochaine fois que tu lis Gameblog, tu prends deux claques. Voilà,
c'est pas Gameblog,
même
c'est D-Lab, c'est vachement bien.
Mais merci. Bon, alors,
voilà.
Donc, Monsieur Galaxy, les céréales Mario.
Les céréales Nintendo, donc c'est des céréales Super Mario Odyssey, qui ressemblent, je sais pas si vous connaissez, au Lucky Charms.
Mario, non, connais pas.
Donc c'est-à-dire des sortes de, je sais pas, genre des sortes de Kellogg's, avec au milieu des céréales multicolores seulement de sucre, et qu'ont tous des goûts pareils, mais tout le monde croit que ça a des goûts différents parce que c'est de différentes couleurs, alors qu'en fait que non. Donc les céréales Super Mario donc se rapprochent des Lucky Charms et la petite astuce qu'a trouvé Nintendo pour en vendre parce que bon voilà sinon personne ne l'aurait acheté, c'est de foutre au dos d'abord un labyrinthe et ensuite un amiibo. C'est-à-dire que la boîte au dos, il y a une petite pastille sur laquelle se trouve donc une puce NFC et vous pouvez coller votre Joy-Con dessus pour avoir un bonus dans Super Mario Odyssey. On ne sait pas encore ce que ça sera.
Je me permets de rappeler quand même un truc important, il faut surtout pas coller la boîte de céréales ouverte sur le Joy-Con, parce que sinon tu renverses tout
non,
sur ta table basse.
Non,
mais c'est très important, les consignes de sécurité sont très claires sur le sujet.
Faut pas caler le Joy-Con dans le lait, d'ailleurs. Ça ne marche pas non plus.
Mais il faut mettre le Joy-Con avant ou après le lait?
J'ai pas compris comment ça. Mais alors, moi j'ai une question quand même, est-ce que le labyrinthe est intéressant ou pas? Que...
Ah bah le labyrinthe, j'ai envie de te dire, tu t'en fous, si t'as acheté ta boîte 40€, c'est pour
ça
le...
Ça fait mal.
C'est pour l'amiibo qui est intégré, quoi.
Non, mais tu...
Est-ce que l'amiibo est un truc
non,
aléatoire?
Je sais. Et non pas.
Est-ce que c'est une box de céréales?
Est-ce que dans les céréales, il y a une figurine Mario aléatoire que t'as pas forcément à tous les coups?
Eh ben, on sait pas. En vrai, les seuls trucs qui ont été dévoilés, c'est le donc l'avant et le dos de la boîte. Et il y a marqué, donc, il y a
ça
en
veut dire
gros,
qu'on peut
ça
déjà se faire
près,
spoiler le labyrinthe, quoi.
Ah bah,
c'est dégueulasse.
Tu peux totalement le faire en ligne, le labyrinthe. C'est voilà hein, la société.
Cette invention géniale.
Pas d'obligation d'achat.
Le labyrinthe au dos des paquets de céréales, mais que tu peux faire sur internet avant.
Non mais.
Et poster ton meilleur score, tu vois.
Voilà, je l'ai. Si quelqu'un. Bon, bref, je l'ai. Attends, je le fais, machin. Bon, il n'est pas si compliqué, c'est-à-dire, il y a des petits quiz. Non, il y a pas mal de jeux en fait, au dos. Bon, bref, il faut compter les coins, comme disent les Américains. Au dos de la boîte. Donc, du coup, t'as un petit manuel qui t'explique qu'il faut coller ton Joy-Con à la petite pastille Amiibo. Du coup, voilà la question que je me pose, c'est est-ce que les gens vont ramener leur Switch dans les magasins?
Oh, ce serait mortel.
Pour caler leur Joy-Con contre les boîtes.
Si ça se trouve, ils vont entourer d'une feuille d'aluminium le truc pour que tu sois obligé d'aller. Alors, parce que je te rappelle que sur les tout premiers Amiibo, en fait, il n'y avait pas la petite feuille d'aluminium qui est en dessous du socle pour t'empêcher de l'utiliser dans la boîte, en fait.
Et les gens ramenaient leur Wii U Gamepad au magasin.
Non, mais en tout cas, ils pouvaient utiliser leur Amiibo sans l'ouvrir. Ce qui était quand même... Les vrais
collectionneurs ne l'ouvrent pas.
Quoi ? Mais non, mais c'est, d'accord, mais c'est pratique, en vrai.
Non, mais en vrai, non. Non, parce que si, comme ça, t'es obligé d'en acheter deux. Celui que tu vas garder en boîte pour ta collection.
Non, mais c'est pratique pour les collectionneurs. Après, pour Nintendo,
celui qui va tuer dans ta chambre au bout de 10 ans.
Pognon égale fric.
Pognon.
Et fric égale pognon. Donc faut arrêter. Pardonnez.
Merci, bon, Louis-Michel de Réac.
Exactement. T'en as pour ton fric, car pour 40€ prix indicatif.
Genre
tu as des céréales. Une boîte de céréales que tu peux trouver à 2€ ailleurs, mais tu as une petite feuille.
C'est vraiment 40€?
C'est vraiment 40€.
Non, vous êtes des ouf. Vous avez fait un câble.
Quand il y a les Nintendo et Amiibo dans la même phrase, je me dis qu'il serait capable de le faire.
Non mais à mon avis, la boîte va coûter très cher pour ce que c'est. Parce que c'est des céréales qu'on trouve ailleurs et ça m'étonnerait pas. Que ça soit juste Lucky Charms,
c'est des céréales Amiibo
qui les fabrique en fait.
Alors moi la vraie question que j'ai à poser derrière, c'est est-ce qu'on va les retrouver sur le bon coin à 150€ frais de port inclus, paiement par PayPal seulement?
Oui.
Avec la facture.
De toute façon, tu sais que quand même, je suis quand même sacrément dégoûté parce que
en boîte pas utilisée.
Je suis Twitch Prime parce que mes darons ont Amazon Prime machin.
Pigeon.
Et en fait sur Twitch, tu as des trucs in game et notamment sur PUBG, donc Players Unknown Battleground, un battle royale dont on parlera sûrement tout à l'heure parce qu'il y a des loot box. A conclu un partenariat qui fait que si t'étais Twitch Prime, tu pouvais choper une tenue Twitch. Et sur Steam, les tenues peuvent se revendre. Et donc du coup, la tenue, elle a atteint genre 100 balles aujourd'hui. Et je l'avais pas pris à l'époque parce que j'ai dit, mais j'ai pas le jeu, donc pourquoi je la prends? Et voilà. Et donc du coup, je suis dégoûté. Donc morale de l'histoire, soyez capitaliste.
Morale de l'histoire, ne soyez pas des pigeons. essayez d'élever votre niveau de pensée et essayez de garder le sens critique.
Dernière morale de l'histoire, tout peut être un Amiibo. Des céréales, une fourchette, peut-être ta mère.
Putain, mais alors moi j'attends avec grande impatience qu'il sorte le tampon hygiénique Amiibo parce que je vois pas comment tu vas faire pour le mettre avec ton Joy-Con.
Mais du coup, est-ce que tu mets de l'alu avant ou après l'avoir enlevé?
Moi la question est bien là, c'est est-ce qu'il s'active quand le tampon est plein ou pas?
Du coup, est-ce que tu dis céréales ok, d'accord, on va annuler cette blague.
Ouais,
je voulais faire
là, c'est pas bon.
Céréales Amiibo, tu vois.
Non.
Ou machin.
Non,
bref.
C'était trop, non.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire cette
prochaine actu.
Parce qu'on a déjà fait une blague.
Pour oublier cette blague.
Alors moi j'avais dit que j'avais pas d'actu, mais en fait j'ai une petite actu.
Alors voilà, Antix, la petite actu. Mais donc, alors, je veux que ce soit pas sale, pas avec des Amiibo, pas avec des lootbox.
on va parler concurrence.
Une news propre sur elle qui vote à droite.
Non.
Et on va parler un petit peu JRPG. Donc vous savez que vendredi sort Xenoblade 2. Et je pense que Square Enix a très très peur du prochain Xenoblade. Et du coup, ils ont décidé que Final Fantasy XV, leur jeu que personne n'a aimé, et dont tout le monde voudrait qu'ils arrêtent de faire des trucs, que ce soit des applis smartphone à la Clash of Clans ou un mode multijoueur dont personne n'a voulu, ils ont décidé que ce jeu en fait devait continuer à vivre Et donc, ils vont faire des nouveaux DLC pour Final Fantasy XV, alors que je pense que globalement, le monde n'en a rien à faire de Final Fantasy XV et aimerait qu'on passe à autre chose.
Genre, ils vont mettre un scénario ?
En fait, les DLC servent à combler les trous du scénario.
Ah, est-ce que le DLC, c'est genre t'achètes une box à 50 balles et puis t'as une chance sur 5 de choper le DLC?
T'as une chance sur 5 de choper le scénario. Moi, je pense qu'on pourrait vendre des jeux comme ça, ce serait vachement intéressant. C'est-à-dire que finalement, tu payes 20 balles et en fait, soit tu récupères les graphismes, soit tu récupères le son.
Non, mais attends,
soit tu récupères la
jouabilité,
soit tu récupères le scénario.
Spoil pas.
C'est DLC Quest.
C'est exactement ça le jeu. Ouais.
Bref.
Le truc que tu achètes dans le jeu, c'est le déplacement à gauche.
Oui, ah ouais. Oui, c'est vrai. c'est incroyable.
Acheter la gauche, c'est
bizarre. Che Guevara.
Mais DLC Quest, faites-le juste pour le principe parce que c'est vraiment très drôle.
Ça vaut 2€, allez-y.
Donc je vais terminer ce petit tour de table de la
cube. Top.
Oui, putain, bah alors t'as encore un truc.
Oh
bah oui.
Comment il t'a clashé?
Et alors, vu qu'on parle des lootbox et des sites un peu frauduleux, et ben j'aimerais revenir sur un éditeur qui lui est relativement noble et qui pense aux joueurs
et qui est
vraiment
honnête.
Alors là, vous pensez peut-être à Nintendo, mais non, je pense à Sega. Je pense à Sega et à son jeu Sonic Forces.
Sega.
Vous savez, ce merveilleux jeu Sonic Forces, parce que à la Splatoon, un petit peu, Sega a voulu offrir des choses, et récemment, ils ont offert le t-shirt Sonic le Hérisson dans Sonic Forces. Donc on peut se balader avec le t-shirt avec le même, donc personnaliser son personnage avec ça, et c'est formidable. Donc si vous connaissez pas ce même, c'est un Sonic très mal dessiné qui go to go fast, et qui est mort un petit peu à l'intérieur, ça se voit sur son visage. Et je trouve qu'en fait, c'est formidable de la part de Sega d'avoir fait ça, parce que le jeu est digne du même.
Alors moi, ce que je me demande dans ce genre de cas-là, c'est toujours, est-ce que c'est de l'autodérision, ou est-ce qu'ils se sont pas vraiment rendus compte ?
Sonic, Sega. Parce que...
Galaxy... Je pense que tout est bon pour maintenir Sonic en vie, y compris reprendre les mêmes des fans pour leur faire plaisir.
Enfin, alors, quand on voit que leur meilleur jeu ces 20 dernières années, c'est un jeu fait par des fans, je pense qu'ils basent toute leur communication maintenant sur les fans.
Non mais Bayonetta était extrêmement bon, de quoi tu parles?
Quoi, c'était Sega, Bayonetta?
Je parle en tant que développeur.
Développeur.
C'est pas... Bah, et s'ils éditent, ils font juste la com.
Bah du coup, ils ont pas développé Sonic Mania.
Bah
ils
non,
pas développé Sonic Mania.
Mais non, si,
si on parle en tant que développeur, ils ont pas développé Sonic Mania. Leur dernier bon jeu, c'était Valkyrie Chronicles.
Mais non, ils ont embauché des fans. Mais
non, mais c'était son studio à lui, hein. Oh là là.
Non, non, le mec a créé une structure. Ah oui, non, si, il a créé une structure aidée par Sega.
Autant pour moi.
Il y a pas marqué Sonic Team, c'est pour ça que c'est un bon jeu.
Putain, le bâtard.
Tu n'en penses pas moins, Mortal.
Le dernier bon jeu de Sega, c'est
F-Zero Genesis. C'est Puyo Tetris.
Non, attendez, moi je suis pas d'accord parce que monsieur, comment il s'appelle, à chaque fois j'arrive à zapper son... Le mec qui a créé Sonic, ça me...
Shigeru Miyamoto.
Non, pas Yu Suzuki, l'autre.
Le mec, il a designé?
Ouais, voilà.
Il bosse chez Nintendo, je crois.
Oh merde. bon bref, Jean-Michel Sonic, il a fait Rodeas the Sky Soldier, et Rodeas the Sky Soldier, c'est bien.
Ton jeu favori?
Jeu favori.
Sega.
Franchement.
C'est plus fort que toi.
Yuji Naka.
Voilà, Yuji Naka. À chaque fois, je fais une espèce d'obstruction parce que tu vois, c'est comme si mon cerveau essayait de me dire non, il fait un blocage sur le nom du mec. Et je suis désolé, mais plutôt un Rodeas The Sky Soldier que 5 Valeureux numéro 9. Voilà. Parce que Valeureux numéro 9, ça rend de la merde. Bref, je vais terminer ce tour de table de l'actu par une petite nouvelle un peu rigolote. Enfin, rigolote. Vous me direz.
Le cochon d'un des morts.
Le cochon d'un des morts, ça c'est pas une
ça fait 3 émissions qu'on est au courant.
C'est rigolo.
D'où la panne du serveur.
Mais alors, la panne du serveur, bon.
C'est son fils qui mangeait les câbles.
C'est compliqué. Donc, Assassin's Creed a 10 ans. Alors, pas 10 ans tout pile, mais il est sorti le 8 novembre 2007.
Je t'ai pané.
Un petit peu plus de 10 ans. Et en 10 ans, Assassin's Creed a donc fait.
Beaucoup de bugs.
Alors, beaucoup de Buggysoft a fait énormément de progrès. Je pense que c'est le jeu qui a propulsé Ubisoft sur la place mondiale.
J'ai une question sur Assassin's Creed. Est-ce qu'il y a plus de jeux que d'années?
Eh bien oui, il y a 20 jeux au total. Pour 10 ans, c'était surtout ça l'actu, c'est-à-dire qu'ils ont quand même essoré le truc à un point complètement... je trouve ça hallucinant.
Tu comptes aussi les jeux mobiles ou pas?
Je compte tout.
Ah, parce qu'il y a plus que 20 avec les jeux mobiles, ils ont fait peut-être une dizaine.
Avec les jeux mobiles, officiellement, il y en a 20.
Pas officiellement.
Officiellement, il y en a 20. Après, ah, si, je sais pas parce si ça compte des tous les jeux mobiles. Et tout. Parce qu'effectivement, t'as des jeux mobiles qui ont dû, t'as des jeux mobiles qui ont dû sortir sur DS ou sur 3DS à un moment. Du coup, ils sont peut-être comptés comme des vrais jeux et pas tout. Voilà, ils sont comptés.
Dites-vous qu'en l'équivalent de quand même de 20 épisodes d'Assassin's Creed, Nintendo a sorti 4 consoles.
Putain, oui.
C'est chaud.
Putain, 20 toupies, incroyable.
20 épisodes d'Assassin's Creed. Nous n'avons pu profiter que de Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed 4.
Donc, globalement, c'est... le moins bon et le meilleur.
Alors, le moins, oui, le plus chiant. Le plus chiant et le meilleur de très très loin. Parce qu'il y a des pirates. Voilà, il manquait juste les ninjas et on était bon.
Ouais, mais ça ce sera Assassin's Creed Mate, Kutsuka, Yamamoto Kaderate.
Non, parce qu'il y a déjà eu un Assassin's Creed China Chronicles qui était de la merde.
Oui, mais c'est pas grave, ça sera au Japon. Il y a Assassin's Creed Yakuza.
Je crois que t'allais dire Assassin's Creed Nyakue,
je suis assez... dérapage.
Mais non, parce qu'on parle des Chinois du Japon, pas des Chinois de Chine.
C'est pareil, c'est les mêmes. C'est les mêmes.
Ok,
bref,
balance
voilà, donc ça m'a juste fait marrer de se dire, putain, 10 ans, 20 jeux, c'est quand même bourrin. Et enfin voilà, et apparemment, même Unity qui a pris une belle petite claque, ça les a pas tellement arrêtés, et là ils continuent. Et... Alors après, apparemment, avec un petit peu plus de réussite, au moins d'un point de vue ludique avec Origins, que j'ai pas essayé. Hein. C'est... Les retours de la presse.
Mais même les autres qui étaient moyens, mais qui étaient pas horribles, d'après ce que j'ai compris, à part les problèmes techniques, mais même Unity et Syndicate, ils étaient moyens, mais ils étaient pas.
Bah, ils sont quand même bien fait descendre.
Ils ouais. évoluaient pas, quoi, ils évoluaient pas la série.
Voilà,
un Call of Duty, quoi.
Le ressenti que j'ai en jouant à Assassin's Creed, enfin, je fais que Brotherhood, c'est l'impression d'avoir un jeu qui est quand même plutôt bien réalisé, avec une volonté d'exactitude historique assez importante. Le truc, c'est que c'est aussi un jeu qui est là extrêmement rempli, mais que je trouve au final extrêmement creux. Et ça, je sais pas par contre s'ils ont réussi à faire évoluer, tu vois.
Bah, en fait, le problème des Assassin's Creed, finalement, c'est ça, c'est-à-dire que t'as beaucoup de contenu, mais pas tellement de jeux. C'est-à-dire que t'as beaucoup de choses à faire, mais qui sont pas forcément extrêmement variées, la boucle de gameplay est très simple. Et t'as une très grosse production value, c'est-à-dire qu'effectivement, t'as les doublages intégrales, machin, la reconstitution d'un monde complet, physique, le truc. Mais c'est parce que t'as une grosse production value que ton jeu est bon. C'est toujours le même problème. Donc c'est intéressant, à mon avis il a des bonnes notes ce genre de jeu là parce qu'effectivement il y a une grosse production value derrière et donc les mecs se disent bah on va quand même pas lui mettre 3 parce que il y a du taf quoi. Mais derrière c'est pas forcément extrêmement amusant. Je trouve qu'effectivement Assassin's Creed 4 avait cette qualité là, c'est que la variété des phases de jeu était bien meilleure. Et finalement, les phases d'assassinat étaient chiantes comme d'habitude. Les phases d'infiltration étaient un petit peu plus intéressantes parce qu'il y avait 2-3 petites nouveautés qui faisaient qu'on pouvait faire des trucs un peu rigolos. Les phases en bateau sont juste énormes. Et en fait, c'est ça qui sauve le jeu, c'est que finalement, ils ont réussi à varier ça en faisant des choses un petit peu différentes. Les phases d'abordage sont intéressantes au début, après tu commences à voir un peu les grosses ficelles du truc, mais les phases face aux gros bateaux sont vraiment intéressantes aussi. Enfin bref, c'est je pense que c'est le meilleur simplement parce qu'ils ont commencé à mettre du jeu plutôt que du contenu.
Alors après j'ai vu du gameplay de Assassin's Creed Origins. Je sais pas si c'est pareil dans tous les Assassin's Creed, mais t'as énormément d'infos à l'écran quoi. Peut-être trop.
Mais ça c'est les habitudes d'Ubisoft de te noyer dans un HUD qui n'a pas forcément toujours de sens. Et bon, après c'est un style, hein. On peut pas.
Voilà. C'est l'open world d'Ubisoft en fait. C'est presque un genre de jeu, tu vois.
C'est presque un genre à lui tout seul. Hein. Parce qu'effectivement, c'est des trucs qui ont été quand même copiés par d'autres gens. Du coup, ce qui est con, hein, pourquoi copier ce genre de choses-là, mais on va pas insister là-dessus. On va faire une première petite pause musicale, on va s'écouter un petit morceau qui m'a fait bien triper ces derniers temps, parce que c'est vraiment juste un peu le grand n'importe quoi très très rigolo.
Despacito.
Non.
Enfoiré.
Non. Boum. Non, ce morceau est une reprise du morceau Sewer Surfing de la bande originale de Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time sur Super Nintendo. C'est la musique des égouts, donc le niveau numéro 3 du jeu, par un petit groupe qui s'appelle The Spoony Bards, qui est en fait un collectif d'une vingtaine de musiciens qui a opéré à Chicago entre 2010 et 2012, qui n'a rien fait depuis malheureusement. Et vous allez voir que c'est une reprise très jazzy, qui part un petit peu dans tous les sens, mais qui est super agréable à écouter, vraiment vraiment... très 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 amusant. Voilà, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour.
Quoi?
Quoi? Ah, c'était pas le bon mot.
Et donc voilà, The Spoonie Bards, vous pouvez aller retrouver leurs chansons sur leur Bandcamp. Je vous préviens, c'est à peu près la seule chanson qui valent le détour, je pense, parce que les autres sont discutables.
Comment ça dénonce? Vous pouvez la retrouver à Perpignan le 34.
Il faut le dire. Perpignan le 31, à Bondy le 28. Bref, comme Galaxies, que vous pouvez retrouver donc tous les mercredis soirs à la salle des fêtes de Bondy pour son spectacle. J'aime les Pokémon.
Moi, moche et méchant. Incroyable.
Voilà, bref. Donc, nous allons parler de lootbox. Mais d'abord, on va falloir clarifier quelque chose. C'est qu'est-ce que c'est qu'une lootbox ? Parce que
alors, avant toute chose, Mortal, on me dit dans l'oreillette,
dans l'oreillette
que Cyrard nous demande une minute de silence pour en hommage à un petit éditeur qui a officié sur de nombreuses consoles, notamment la PlayStation et la Xbox, à sortir tous les jours des jeux de sport. Je parle bien sûr de Electronic Arts, dont la crédibilité est morte une nouvelle fois.
Aujourd'hui, et on va faire du capitalisme
sur l'autel du capitalisme sacrifié par le gros argent et le méchant capitalisme. Et du coup, nous demandons environ une seconde de silence à peu près tout le podcast, y compris nos auditeurs, pour rendre hommage à cette entreprise. Voilà, je vous remercie d'avoir fait ce silence. Vous pouvez continuer.
Je remercie Cyrard pour cette intervention qui nous aura bien été utile. Donc les microtransactions dans les jeux, c'est pas quelque chose de nouveau, un petit peu comme les DLC, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est gênant, c'est quand les DLC sont directement sur la galette. Attendez, on s'égare.
On a un peu 5 ans de retard.
On a un peu 5 ans de retard. Non mais voilà, c'est pas forcément le sujet. L'idée, c'est d'arriver à bien comprendre ce que c'est qu'une lootbox. Donc pour comprendre ça, il faut comprendre ce que c'est qu'une microtransaction pour commencer. Les microtransactions dans les jeux, le principe, c'est de dire, bah, pour pouvoir débloquer telle voiture dans Forza Horizon 2, par exemple, qui est un jeu où il y a beaucoup de microtransactions, bah, il faut gagner 15 000 $ en monnaie du jeu. Et 15 000 $ en monnaie du jeu, et ben ça se gagne en faisant, je sais pas, une ou deux heures de course, et tu peux débloquer la voiture que tu veux. Seulement, il y a des gens qui n'ont pas le temps de faire ça. C'est une Ubisoft qui en parle beaucoup de ce genre de choses-là. Il dit, ben voilà, aujourd'hui, on se retrouve face à deux populations. Il y a une population qui a du temps pour jouer, et donc qui, effectivement, trouve satisfaction dans le fait d'aller collecter de l'argent ou d'aller remplir des défis pour pouvoir gagner de la monnaie virtuelle, pour pouvoir aller acheter, via des microtransactions, des pièces d'équipement, des nouvelles voitures, des nouvelles tenues, et ainsi de suite. Et il y a des gens qui n'ont pas de temps à y consacrer au jeu, donc ils l'ont acheté, certes, mais ils peuvent pas non plus grinder pendant 4 heures des trucs. Donc on leur propose de payer une petite somme. Voilà, alors typiquement...
1 ou 2 euros.
Tout à fait, typiquement Forza Horizon, c'était genre 10 000 $ in-game, ça coûtait 1 dollar réel. Donc ça veut dire que la super...
Ah, cette inflation, mon gars.
La super... Oui, voilà, c'est horrible. C'est un phénomène extrêmement étrange, mais c'est à cause de la banque centrale de Forza Horizon 2 qui a refusé de faire du quantitative easing de manière un petit peu péremptoire. Donc du coup,
c'est Jean-Michel Merkel s'est exprimé sur le sujet.
Ça, c'était
Jean-Pierre Gaillard, Bourse de Paris.
Et évidemment, la banque du Japon qui a surenchéri en passant les accords bilatéraux avec la Russie concernant le pétrole chinois. Bon bref,
c'est compliqué comme sujet.
C'est compliqué comme sujet. Donc bref, l'idée c'était de dire, bah voilà, la voiture qui coûte 15 000 $, bah si tu payes 1,50 €, ce qui est pas non plus complètement hallucinant, c'est vraiment, tu payes vite fait 1,50 €, pouf, t'as la voiture tout de suite, t'es pas obligé de faire 3 heures ou 4 heures de grinding pour aller la récupérer ou gagner je sais pas combien de tournois, pas forcément très intéressant, ou alors toi t'as juste envie d'avoir la voiture et c'est tout. Donc ça peut paraître hallucinant d'aller payer pour du contenu que tu as déjà acheté puisque tu as acheté le jeu, mais j'ai la logique du truc, c'est de dire, bah c'est rigolo d'aller débloquer des trucs en finissant le jeu, mais tout le monde n'a pas le temps de le faire, donc des fois on le vend. Arrive c'est le problème de la lootbox.
Alors en fait déjà, ce dont tu parles, les microtransactions, c'est déjà un dérivé de ce que faisait déjà beaucoup de free-to-play, notamment à la grande époque de Farmville sur Facebook, où grosso merdo, ben, le jeu était gratuit. Tu étais limité, enfin tu étais obligé d'attendre un certain temps pour pouvoir progresser, et en payant tu pouvais aller plus vite. Et en fait ça c'est ce modèle-là qui était très en vogue... durant la fin des années 2000.
Il y a une grosse dizaine d'années. Ouais.
Voilà, non mais durant la fin des années 2000, à l'époque où Facebook en fait commençait vraiment à se propager dans le grand public et n'était pas l'espèce de réseau social assez sérieux qu'il est maintenant, il y avait beaucoup de ça et en fait ça c'est le modèle, c'est le modèle des microtransactions des free-to-play appliqué à des jeux payants. Et une des raisons pour lesquelles ce modèle existe, c'est que, avec l'augmentation des coûts de développement les éditeurs cherchent à rentabiliser leur jeu de, enfin leur jeu très cher de plus en plus, et notamment de plus en plus sur la durée. Parce qu'on a une tendance à oublier que c'était souvent tout ce qui est Assassin's Creed, tout ce qui est alors pas Star Wars Battlefront du coup, mais
oui là sur la durée il va avoir du mal celui-là.
Voilà, sur la durée ça va être compliqué, mais par exemple un Mass Effect. Enfin, ces espèces de jeux qui coûtent assez cher à développer, mais qui du coup sont surtout des jeux solo avec peu de possibilités de relancer le truc. C'est des jeux qui se vendent sur les premiers jours, les premières semaines. Et en fait, l'idée de faire des micro-transactions, c'est aussi de pouvoir rentabiliser un petit peu plus sur le long terme. D'où l'aspect suivant qui sont les lootbox.
Et du coup, je me permets quand même, parce que Syrah avait fait la remarque sur le forum et je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord sur la source du problème, c'est effectivement peut-être l'augmentation des coûts de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Ubisoft préférera vendre son Assassin's Creed Origins 60€ en boîte le jour de sa sortie et s'assurer un DLC facile à 10€ et des microtransactions en plus pour arriver à le rentabiliser, plutôt que de dire je mets vraiment tout le contenu à disposition des joueurs, sauf que je le vends 80€. Et là, à 80, il n'est pas sûr de le vendre. Il y a quand même un vrai problème sur le fait que, effectivement, nous, en tant que joueurs, refusons de payer un prix plus cher pour un jeu qui a coûté plus cher à produire, ce qui est un petit peu problématique. Et il y a aussi quand même la question de la rentabilité, c'est-à-dire quand le budget d'un jeu atteint les 100 millions de dollars et qu'il se vend à 5 millions d'exemplaires, ça veut dire qu'il faut faire 20€ de marge sur chaque jeu minimum. Je vois pas comment c'est possible.
Il y a aussi un point qui est important, c'est que... Les gros éditeurs occidentaux principalement continuent à aussi, enfin, entretiennent eux-mêmes cette escalade des coûts, puisque ils essaient toujours de garder un certain niveau de production value. Donc la production value, hein, pour traduire rapidement, c'est en fait la qualité visuelle de la chose. Donc dans le cas d'un jeu vidéo, c'est la qualité des musiques, la qualité des graphismes, le réalisme aussi. Et ils continuent toujours d'aller plus dans cette direction. Plutôt que peut-être de faire un petit peu moins beau pour réduire les coûts, quoi. Il y a une certaine mentalité de jeu la plus grosse qui est aussi un petit peu présente chez les développeurs occidentaux, qui forcément entraîne une augmentation des coûts, quoi.
Tout à fait, il y a un vrai problème. Le vrai problème de fond, c'est effectivement ça, c'est la façon de se financer de ces gens-là. Et il faut bien arriver à comprendre ça, c'est-à-dire que le phénomène derrière de microtransactions, de lootbox et tout ça, c'est vraiment une façon d'aller dire ça coûte très cher d'aller développer un jeu, c'est de plus en plus cher de développer un jeu, donc il faut absolument qu'on arrive à le rentabiliser, et on en arrive à des solutions qui sont parfois un petit peu borderline, comme la lootbox. Alors le principe de la lootbox, c'est que quand par exemple tu viens de finir ta partie d'Overwatch et que tu as bien joué, que tu es bien classé, eh bien on te donne une boîte, un coffre avec du contenu aléatoire, le contenu aléatoire pouvant être...
Quand il passe un niveau.
Oui, c'est ça, c'est pas quand tu joues bien.
Quand tu passes un niveau. Ah non, parce que par exemple, moi, je suis une véritable... un véritable chibre, parler en ces termes.
Une grosse bombe.
Un pro-player, comme disent les jeunes. Et c'est quand tu passes un niveau, où... Enfin, il y a d'autres conditions, mais en gros, c'est quand tu passes un niveau. Mais c'est qu'au cosmétique.
Alors, c'est de toute façon, ça, je crois que ça n'est que cosmétique pour Overwatch.
Oui, c'est cosmétique, c'est des packs de voix, des tags, et parfois t'as des costumes.
Voilà, mais des costumes, tu mets des voix, beaucoup des tags. De temps à passer un niveau. C'est vraiment très long.
Bon, mais ça, on va dire que ça, c'est un autre problème. Mais basiquement, voilà, on te file un coffre dans lequel il y a des trucs aléatoires, et les trucs aléatoires, tu les as. C'est dans le principe relativement rigolo tant que ça se limite à ça, c'est-à-dire que finalement. Tu récupères une espèce de récompense aléatoire pour avoir passé un niveau. C'est un petit peu ce que fait finalement Splatoon et Splatoon 2, c'est-à-dire que quand tu passes un niveau, t'as ton équipement qui va commencer tu vas gagner des trucs supplémentaires pour ton équipement qui va te permettre d'avancer plus vite dans la peinture adverse et ainsi de suite. On est plutôt dans les trucs de cet ordre-là. Et tu peux pas aller choisir exactement ce que tu veux, mais globalement on te le fait pas payer.
Oui, donc et puis vraiment... l'autre point dans Overwatch, c'est qu'on te laisse la possibilité de les avoir gratuitement sans passer par lootbox. T'as un système de monnaie en fait que tu obtiens soit dans les lootbox, soit en
microtransaction.
Ouais, je pense qu'il y a ça aussi. J'avoue, j'ai jamais regardé. Enfin, j'ai joué au jeu, ouais, mais ça m'a jamais intéressé.
C'est, je crois que les pièces, c'est ouais, tu peux microtransaction, mais enfin, c'est vraiment pour les gens qui font des unboxings sur YouTube, quoi, clairement. Genre, il y a aucun intérêt à acheter de la monnaie sur Overwatch ni des lootbox. Donc, vraiment, pour le coup, le jeu te pousse pas du tout
Ouais, après, si tu veux le costume super rare de l'événement de Noël,
ah bah
t'es
oui,
parfois un peu obligé après, de forcer, voilà. Tu vois.
Mais c'est que cosmétique, ça n'influe pas du tout. C'est comme,
oui, ça n'a pas d'influence sur ton niveau de jeu. Mais ouais, voilà.
La lootbox que tu as achetée, tu seras toujours aussi nul.
C'est ça. Mais malheureusement. Mais la volonté d'avoir un truc un peu cool fait que tu peux être poussé à payer. Et c'est le modèle des jeux type Fire Emblem Heroes, parce qu'il va encore falloir revenir au free-to-play comme pour les microtransactions. Au Japon, tu as tout un système de jeux free-to-play où en fait, le jeu de base est gratuit. Et en fait, la partie aléatoire, ce sont les personnages que tu obtiens et avec lesquels tu vas faire ton équipe. Donc, pour Fire Emblem Heroes, c'est des ops qui vont te permettre de tirer au hasard des personnages avec des niveaux de puissance différents. Et c'est dans ce cas-là, ce qui va te pousser à payer, à passer à la caisse, c'est d'avoir plus de monnaie pour faire plus de chances de tirage. Et alors, j'ai pas regardé à quoi ça ressemblait les vidéos, mais j'ai vu des intitulés sur YouTube où les mecs mettaient 1200 orbes pour pouvoir tirer des persos parce qu'il y avait je sais plus quel événement qui était disponible. Ce que personnellement je trouve hallucinant parce que 1200 orbes, tu peux pas les avoir gratuitement dans le jeu globalement.
Mais c'est là où ça devient pervers et un petit peu problématique, c'est que on se retrouve dans une situation dans laquelle les gens vont aller payer pour des trucs aléatoires dont non seulement on ne connaît pas la fréquence ou la distribution, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dire le costume, super costume de Noël, il est distribué, enfin il y en a 1 sur 36 boîtes par exemple,
certains jeux le font, c'est le cas de Fire Emblem
Heroes. Certains jeux le font par obligation, je rappelle.
Par obligation, Fire Emblem Heroes le fait, on sait quel est le pourcentage d'obtenir un tel personnage avec. On sait quel pourcentage d'obtenir un personnage avec tant d'étoiles, donc quel niveau. Bon, et après, on a le détail des personnages que tu peux tirer, donc tu peux calculer combien de chances tu devrais avoir un perso. Mais tous ne le font pas, effectivement. Et Overwatch, dont on parlait tout à l'heure, a été obligé de montrer ses pourcentages parce que la justice chinoise y a forcé pour ne pas passer en jeu d'argent.
Voilà, c'est là où on atteint l'autre problème qui est le côté jeu d'argent. Donc il y a eu. Alors, il y a eu d'autres précédents sur le sujet qui ne sont pas forcément liés au lootbox, mais qui étaient un petit peu liés au jeu d'argent. Il y avait la question des loteries dans Counter-Strike Global Offensive.
C'est le dernier qui est d'ailleurs assez mal. En plus, qui lui, en plus, combinait ça à un système d'hôtel des ventes, où tu pouvais revendre avec pour du vrai argent des trucs que tu avais eu dans des caisses.
Voilà, c'est-à-dire que là, on commence à avoir un système qui marche sur la tête, et clairement, ce système-là, la justice américaine a tranché, a dit non, mais là, attendez, c'est du jeu d'argent, clairement. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas aller acheter des caisses, enfin des lootbox, qui contiennent du contenu aléatoire, que tu peux rééchanger contre du vrai argent derrière. Ça veut bien dire que tu fais un pari, comme au casino, hein, finalement, tu mets une pièce dans la machine à sous, pouf, et en fonction de ce qui tombe, bah, tu vas pouvoir récolter du pognon ou pas. C'est-à-dire que le pistolet de base que tout le monde a, bah, effectivement, il va valoir zéro. Par contre, la super mitraillette couleur panthère avec un petit pompon rose au bout, et bah, celle-là va valoir très cher. C'est amusant parce qu'il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé à jouer à ce genre de choses-là, il y a 20 ans maintenant, c'était toi qui faisais tes skins toi-même en te démerdant comme un pro. Et ça marchait très bien. Et aujourd'hui, il faut les acheter. Je trouve ça quand même un petit peu hallucinant le chemin qui a été parcouru entre deux.
Ouais, mais entre-temps, Valve a décidé que faire des jeux, c'était pas intéressant. Fallait mieux vendre des chapeaux bonus.
Ouais, exactement. Mais en fait, c'est Team Fortress 2 typiquement.
Valve,
avec ses chapeaux.
Pour faire de l'argent, ils ont Steam, ils ont le monopole. C'est plus besoin de faire de jeux.
Oui, mais ils ont, c'est clairement. Enfin, si Half-Life 3 n'est pas encore sorti, c'est pour être très clair, c'est simplement parce qu'effectivement, ils en ont rien à branler.
Ce qu'on dit, ils préfèrent vendre des chapeaux, ben en fait,
ouais,
ils prennent 30% sur tous les jeux vendus chez eux, donc ils s'en foutent.
Il y a Apple.
Fait qui explique aussi le fait qu'il n'y ait pas Half-Life 3, mais enfin, typiquement, genre, c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi s'emmerder à financer un autre jeu alors que t'es déjà assis sur une énorme mine d'or, parce que faut se dire, il n'y a pas que CSGO et Team Fortress 2 qui rapportent de l'argent en microtransactions à Steam, enfin à Valve, il y a aussi tout Steam, tous les jeux avec des microtransactions passant par le marché Steam.
Oui, et Valve récupère un pourcentage,
c'est
exactement
récupère
comme...
un pourcentage, et un pourcentage qui est énorme.
Exactement comme Apple récupère 20% ou 30% de toutes les transactions qui sont passées à l'intérieur des applications
App
Store.
D'ailleurs, en parlant de Steam, les trucs aléatoires là sous CSGO, ils ont pas sifflé la fin de la récré.
Si, ils ont sifflé la fin de la récré, mais ils ont sifflé la fin de la récré parce que le régulateur américain a dit « Oulala les gars, dis donc, ce serait pas un casino en ligne, ça ? Parce que j'ai pas l'impression que vous ayez une licence sur le sujet. Et là, chez Valve, ils ont commencé à dire « Oh, merde si c'est ça, c'est-à-dire que t'as pas le droit de le vendre à des mineurs, par exemple. T'as pas le droit... Enfin, aux États-Unis, les jeux d'argent sont quand même extrêmement contrôlés. Hein. Je veux dire, Las Vegas, je connais des gens qui y sont déjà allés, vous rentrez pas si vous avez pas présenté une carte d'identité, tout ça. C'est-à-dire que ça a l'air d'être la fête du slip, mais c'est la fête du slip une fois qu'on a montré patte blanche et qu'on a garanti que, oui, on était bien solvable, oui, on était bien majeur et vacciné. Tu n'as pas le droit, par exemple, à Las Vegas, de rentrer dans un casino si tu es en état d'ébriété. C'est un truc con, hein, mais... t'es bourré ou t'as l'air de pas être très très clair, les mecs te font souffler dans le ballon avant de rentrer dans le casino.
D'ailleurs, mais... en parlant de Valve...
Les mecs rigolent pas du tout là-dessus. Hein, donc,
En parlant de Valve et Steam, y a un truc, ils ont un truc, alors c'est pas des lootbox, mais c'est un peu dans ce genre-là, c'est les cartes à collectionner pour les jeux. T'as les cartes tirage et en plus, celles-là, tu peux les revendre genre à 5-6 centimes. Il y a des gens qui achètent, moi je me suis déjà réussi à récupérer genre 2-3 euros de réduction sur un jeu parce que j'en avais vendu plein, quoi.
J'en ai déjà acheté, moi.
Ça c'est différent parce que les cartes, tu les... Enfin, d'après ce que... Le peu de trucs que j'en ai vu, tu les... Il n'y a pas de... Et est-ce qu'il y a des... Il y a des conditions pour les choper en jeu ?
Est-ce que moi, c'est...
Non, genre totalement aléatoire.
C'est le voilà. temps de jeu.
C'est ça. Donc, du coup, c'est pas vraiment de la loot box ou machin.
Tout à fait. Je vous rappelle que la question sur laquelle ça a été. La partie CSGO, là où le régulateur américain a sifflé effectivement la fin de la partie, c'était sur le côté aléatoire. C'est-à-dire, le fait est, tu mets une pièce dans la machine et t'es pas certain d'arriver à récupérer quelque chose qui a de la valeur. Tu peux récupérer quelque chose qui vaut rien. Tu peux récupérer des choses qui ont énormément de valeur. Là où le régulateur américain n'était pas d'accord, c'est de dire, si je mets une pièce dans le jeu, c'est-à-dire si je vais payer 5 euros pour acheter une carte particulière, il n'y a pas de problème. Finalement, j'achète quelque chose de parfaitement virtuel et qui n'a strictement aucune valeur. Il faut quand même vous poser la question de savoir ce que vous achetez réellement. Parce que le fait que vous possédiez une carte virtuelle chez un éditeur, c'est quand même... Voilà, très particulier. Je vous rappelle que la caractéristique essentielle de quelque chose que vous possédez, c'est votre capacité à la revendre. Donc si vous ne pouvez pas le revendre, bah, vous ne le possédez pas vraiment. Mais bon, le fait est, acheter une moto ou une voiture dans Forza Horizon, bah, tu sais ce que tu achètes. Il n'y a pas de notion de hasard derrière sur lequel tu as une chance sur 1000 de tomber sur le costume super rare qui vaudra peut-être 70 euros derrière sur le marché secondaire. Donc la question est vraiment... pas là, donc les histoires de cartes et autres ne rentrent pas dans le cadre de la loot box qui est vraiment le casino. C'est les cartes à gratter de la Française des Jeux que tu vas acheter chez le buraliste. Tu sais pas si c'est gagnant ou pas. Alors effectivement, celles-là elles sont entre guillemets gagnantes à tous les coups, c'est-à-dire que t'es obligé d'avoir 3 objets dedans. Overwatch, je crois que c'est ça, c'est systématiquement 3 objets.
4
objets. 5.
Je sais plus.
4. Donc tu as obligatoirement 4 objets dedans, mais les 4 objets, ça peut être des trucs que t'as déjà, ça peut être des trucs dont t'as absolument rien à foutre, ça peut être des trucs pour des personnages que t'as jamais joué, comme ça peut être effectivement le super costume de Noël spécial de machin où on voit ses boobs. Ce qui pose problème là-dedans, c'est quand tu peux retransformer ça en argent d'une manière ou d'une autre.
Ouais, ce qui dans Overwatch n'est pas possible. Tu peux pas revendre ton skin. C'est pour ça que moi je le trouve mieux que par exemple typiquement un CSGO, où tu t'as ta boîte, t'as payé ta clé 3 euros.
Après, il y a le marché.
Tu pries pour choper ton skin à plus de 3 euros, quoi.
Mais justement, c'est là, on parle d'une comparaison entre jeu d'argent et lootbox, mais le SRB comparait bien, enfin, considérait bien justement qu'il y avait une différence. Parce que.
Je suis le mec qui dit rien à branler. Rien à branler du contenu, je veux la boîte.
Putain, mais.
Je suis un chat. Effectivement, je rappelle à deux auditeurs comment attraper un chat dans une boîte, poser la boîte, attendre.
Il se met dedans.
Voilà. C'est... Excuse-moi, Drosgar, je suis vraiment désolé, mais mec, tombe juste. Voilà.
C'est genre ultra vrai.
Du coup, oui, la grande différence, c'est qu'on a forcément quelque chose. Lorsqu'on achète une loot box, alors que lorsqu'on est au casino, on met de l'argent, on n'a pas forcément quelque chose. Et le simple fait de gagner quelque chose derrière, ça suffisait à le SRB, donc à part pour la partie marché de CSGO par exemple, ça leur suffisait de dire que c'était pas un jeu d'argent.
Ouais, alors mais est-ce que t'as forcément quelque chose de pertinent, c'est ça aussi le truc.
Alors, quelque chose. De quoi ?
Pour le SRB, et c'est valable aussi pour notre cher ami Le Sel.
Qu'est-ce que c'est le SRB ?
Et notre cher ami Peggy ?
Le PEGI, PEGI
18.
Le PEGI et le SRB, ce sont les instituts de régulation du jeu vidéo, et c'est notamment eux qui mettent ces jolis petits macarons 12+ ou T14. Alors déjà, on rappelle que ça n'est qu'à titre informatif, hein. Ce n'est en soi, ce n'a pas valeur légale, on va dire. Et surtout, ce sont des institutions qui sont dans le conseil d'administration, en tout cas c'est sûr pour le PEGI, et je pense que c'est pareil pour le SRB, globalement ce sont
des
mecs, des éditeurs, des plus gros éditeurs de jeux vidéo. Donc autant dire que oui, ils vont pas dire que leurs jeux c'est des jeux d'argent.
Ah oui, non, bien entendu, mais c'est juste que c'est la seule réponse un peu officielle au sujet, à part justement bah, les potentielles législations, alors que derrière justement il y a beaucoup de psychologues, qui disent que le phénomène est bien connu, et que si on avait par exemple à chaque fois qu'on jouait au Bordimon Show une petite pièce de 1 centime en échange, bah on aurait quand même une récompense, mais elle serait dérisoire et ça en ferait pourtant un jeu d'argent.
Bah, en fait, je pense que le problème du jeu d'argent, c'est le côté aléatoire. Alors, il y a le côté aléatoire, il y a aussi le côté argent réel.
Oui. Attendez, parce que on a quand même vachement rapidement associé lootbox et jeu d'argent. Il faut quand même différencier différents types de lootbox. Hein.
Alors, effectivement, non, mais celles que tu récupères complètement gratuitement.
Pas toutes les mêmes, ok.
Nous se débalance ton
hashtag notolootbox.
Notolootbox. Balance ta lootbox, bref. Non, il faut quand même rappeler, les trucs aléatoires que tu récupères quand tu changes de niveau ne posent absolument aucun problème à personne. Je veux dire, c'est vraiment juste, tu récupères une récompense aléatoire quand tu passes un niveau. C'est aussi une manière d'équilibrer le jeu, le fait que ce soit aléatoire. C'est-à-dire que si, quand tu passes du niveau 9 au niveau 10, tu récupérais systématiquement les bottes qui te permettent de courir plus vite, bah, tous les mecs au niveau 10 seraient avantagés parce qu'ils courent tous plus vite. Donc ça n'aurait pas de sens. Le fait que ce soit aléatoire, je pense à Splatoon, là, par exemple, qui donne des capacités aléatoires sur ton équipement. C'est-à-dire, c'est à toi d'acheter l'équipement avec la monnaie du jeu que tu peux pas acheter autrement qu'en jouant. Hein, voilà, le truc reste... reste comme ça, et la seule chose que ça donne l'équipement, c'est joli, donc tu achètes vraiment juste l'esthétique avec la monnaie du jeu, et la quantité d'emplacements de trucs aléatoires qui vont se mettre dedans quand tu gagnes des niveaux, point. Donc c'est un bon exemple, effectivement, d'un truc qui pourrait être apparenté à une lootbox, donc il y a un côté hasard, mais on te le donne, il n'y a pas de question de... on te le donne pour le fait d'avoir joué. Donc il n'y a pas de question d'aller dépenser de l'argent pour récupérer quelque chose d'aléatoire. Là où la commission des jeux du Royaume-Uni, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est genre la commission britannique des jeux d'argent, une connerie comme ça, a commencé à dire « Oh là là, attendez, lootbox, c'est des jeux d'argent », c'est de dire bah, « Les gens mettent de l'argent, ne savent pas ce qu'ils vont récolter, donc mettre de l'argent dans quelque chose d'aléatoire qui peut éventuellement avoir une valeur marchande derrière. » Les mecs qui ont fait ça, ils se sont fait pincer très très fort. Après, ils ont dit, mais mettre de l'argent pour un truc aléatoire qu'on sait pas ce que c'est, qui est une récompense dans le jeu, qui peut avoir une valeur même si elle est pas marchande, c'est un problème aussi. Ça peut aussi être apparenté à un jeu d'argent. Parce que, comme sur les fêtes foraines, où effectivement tu vas jouer à des jeux qui sont clairement des jeux de hasard, qui aujourd'hui ne sont pas régulés parce que les forains font chier, mais globalement, c'est quand même un peu un jeu de hasard. Je veux dire, tirer avec le fusil sur la corde, je sais pas si vous avez déjà essayé, bon ben voilà, tu as une chance sur 1 million de décrocher la PS3 ou la PS4 qui est tout en haut de la pile.
Mais c'est du talent, donc derrière c'est pas pareil.
Mais c'est effectivement, ce que disent les forains, c'est un jeu d'adresse, c'est pas un jeu de hasard. Dans la réalité, c'est quand même un petit peu un jeu de hasard. Mais ils se planquent en disant c'est un jeu d'adresse.
Tu sais pas, c'est un jeu de hasard, là ?
C'est possible, voilà, c'est pas ça du tout. Donc voilà, les forains se planquent en disant c'est un jeu d'adresse. Si à la limite la lootbox c'était effectivement un jeu d'adresse, je pense que les régulateurs britanniques et australiens auraient absolument rien dit, parce que de toute façon ils auraient dit, ben voilà, tu gagnes des trucs aléatoires, certes, qui ont une valeur différente, certes, mais tu mets pas d'argent dedans. C'est très différent d'effectivement d'un jeu d'adresse. Tu te retrouves pas dans une situation dans laquelle là c'est vraiment le bandiment chaud, quoi. Tu mets une pièce, soit ça tombe sur quelque chose qui te plaît, soit ça tombe sur quelque chose qui te plaît pas. Le fait que ce soit pas de l'argent mais que ça puisse être une valeur autre, c'est ce qu'a fait valoir la commission britannique. Elle dit, bah oui, mais bon, si je gagne un skin super joli, bah je suis désolé, c'est quand même ça a quand même une valeur. Bah ça pose un réel problème, parce que ces gens-là disent, bah mais attendez, si c'est un jeu d'argent interdit aux mineurs, est-ce que vous avez vérifié qu'ils étaient mineurs, les mecs qui jouaient à ça? Vous avez vérifié, hein? Vous avez vérifié, vous, hein?
Ouais, alors que... Et le PEGI et tout, c'est juste... Ce qui fait qu'il n'y a pas de régulation réelle.
Il n'y a pas, non, alors, y a pas de régulation, c'est même encore pire que ça, parce que, par exemple, le SRB, les éditeurs sont actionnaires, les éditeurs américains de jeux vidéo sont actionnaires de l'ESRB.
Ah oui, non, après, oui, c'est comme donc, le CEL qui organise, enfin, syndicat des éditeurs de loisirs ludiques. Je dis pas de bêtises.
Si vous voulez rejoindre un vrai syndicat, contacter le syndicat des travailleurs du jeu vidéo. Lui, il est vraiment bien. Clin d'œil.
Non, mais bientôt dans le dojo bar.
Qui publie une étude sur l'état du public du jeu vidéo en France avec tout ce qui est âge, tout ce qui est machin. Bon, t'es là, d'accord, mais le sexe, ça se voit clairement qu'il est truqué. L'âge, d'accord, les méthodes de choper les chiffres, ils sont truqués, machin. Donc évidemment, après, quand t'as une grande structure, c'est toujours biaisé. La vie est toujours biaisée, mais c'est vrai que du coup, t'as pas de réel truc pour réguler autre que les grandes instances comme aux États-Unis avec Steam qui s'est passé quoi avec CS:GO. Et c'est pour ça à mon avis qu'on est arrivé aussi à ce
non mais
à un extrême avec IA il y a pas longtemps.
Non mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on en est arrivé là. D'abord
je pense que le fait que ce soit un jeu Star Wars.
Le fait que ça ait bien gueulé, c'est-à-dire jusqu'à présent, la réaction des joueurs, c'était quand même voter avec votre portefeuille, c'est-à-dire si vous arrêtez d'acheter des loot box, ils arrêteront d'en faire.
C'est pas nouveau en fait les loot box dans le jeu vidéo, parce qu'en 2012, Mass Effect 3, un jeu EA, en avait dans son mode multijoueur. Donc il y avait Overwatch évidemment qui était connu là-dessus, mais qui était limite. Enfin, la loot box c'est presque devenu un truc apprécié parce qu'en fait c'est une petite récompense qu'on te file parce que tu joues beaucoup. Et récemment, ça a surtout amplifié avec Shadow of Mordor, qui est un jeu Seigneur des Anneaux. Grosse licence cinématographique et littéraire bien reconnue, qui avait été posé un petit peu problème du côté solo. Et là, en fait, ça a explosé parce que, en fait, c'était Star. Enfin, moi, je pense que la raison pour laquelle ça a explosé, c'est parce que, un, ça avait une vraie influence sur le gameplay, mais pour que ça arrive aux sphères du. Enfin, dans les oreilles des sénateurs français. Ou des instituts de régulation, à mon avis, c'est parce que c'est Star Wars aussi. Et que Star Wars, ça a une licence grand public vraiment majeure, et que ça, c'est le genre de truc qu'on t'entend parler, quoi qu'il arrive, quoi.
Ouais, je pense que c'était aussi un ras-le-bol, dans le sens où, quand tu vois le mec qui écrit le post, qui explique que vraiment, genre, c'est pas normal, que c'est plus genre, ça se fait pas, c'est pas normal d'avoir payé un jeu plein pot, et de se retrouver à devoir farmer 40 heures pour avoir Dark Vador. Et effectivement, c'est là où, en quel que soit ça, le fait que ça soit Star Wars joue, mais je pense que si dans Shadow of Mordor tu devais débloquer Sauron, ça t'es pareil, c'est parce que c'est le personnage, quoi. Sauron, je dis ça, tu le joues pas, quoi, mais enfin, vous avez compris. C'est vraiment le fait que c'est pas normal de devoir payer 60 euros et de devoir farmer 40 heures pour quelque chose qui est censé être de base.
Non, mais ce serait arrivé dans un World of Warcraft, ce ne serait jamais arrivé aux oreilles des députés et des sénateurs, je suis d'accord avec Antix. C'est le fait que c'est Star Wars. Si tu veux, le fait que ce soit un jeu à licence Star Wars, ça s'est donc ressorti dans la presse, entre guillemets, grand public, et pas seulement dans la presse jeux vidéo, et c'est ressorti dans la presse grand public qui a commencé à dire, mais attendez, c'est un peu bizarre ce truc-là. Est-ce que ce serait pas un jeu de hasard? Attendez, on paye des trucs, on récupère des machins aléatoires qui peuvent avoir une valeur à l'intérieur du jeu parce qu'ils vous donnent des avantages par rapport aux autres joueurs, mais il y a un problème. Vous jouez à un jeu de hasard pour jouer mieux. C'est problématique.
Alors, pour revenir sur l'histoire du personnage à farmer, en soi, dans les jeux vidéo, c'est pas nouveau de devoir jouer un certain temps pour débloquer des persos. C'est un truc qui d'ailleurs fait partie pour moi des plaisirs de Super Smash Bros. C'est oui, de débloquer les persos en jouant. Le souci, c'est que, un, on te permet de payer pour l'avoir plus vite, et deux, la quantité de choses à accumuler pour l'avoir.
Ah oui, c'est le nom dérisoire, quoi. Le prix dérisoire.
Non, voilà, c'est qu'on t'incite plutôt à payer. Moi, j'ai le même souci avec Street Fighter V, un jeu où il n'y a pas de loot box, mais dont le modèle économique, et ça a été dit dès le début, par contre, ils ne l'ont pas caché, c'est qu'on sort un jeu avec 16 personnages. Et toute l'année, à peu près tous les mois, on te sort un nouveau personnage que tu peux débloquer soit avec de la monnaie de jeu, comme c'est le cas dans des free-to-play type League of Legends, soit en payant le Season Pass de X euros qui te permet de tout avoir. Et le truc, c'est que tu te dis, ouais, bah c'est cool, je vais pouvoir débloquer des persos en jouant, ça me pose pas de soucis. En fait, tu découvres assez rapidement que pour débloquer les persos, il fallait des trucs genre 10 000 ou 100 000 points. Et que, en fait, par victoire dans mode en ligne, tu gagnais 50 points. Mode en ligne, tu mettais 5 minutes à trouver un match, et qui pouvait parfois se finir en 30 secondes parce que le mec était trop fort pour toi. Donc, c'est vrai que là, c'était déjà un petit peu douteux, je trouve, à l'époque, et dans Star Wars, c'est juste encore pire. parce que c'est, ça met du temps à débloquer le perso que tu veux, et les lootbox ont une vraie influence sur tes performances en jeu. Et c'est l'autre raison, à mon avis, pour laquelle ça pose problème aux joueurs en général.
Ça pose problème aux joueurs en général, et du coup, ça a posé problème aux autorités de manière générale, en disant, bah, écoutez, les gars, ça part un peu en couille. C'est-à-dire que finalement, vous vendez du vent, certes, si les gens sont prêts à l'acheter, ça pose pas plus de problème que ça. Maintenant, si vous vendez du vent aléatoire qui donne des avantages considérables à certaines personnes par rapport à d'autres, ça va donner envie aux autres d'aller à dépenser de l'argent et ça pose un vrai problème.
Oui, surtout ça, que quand même. Surtout que le côté aléatoire fait que
ça rend le truc un peu injuste d'abord.
Ça rend injuste, et toi en tant que joueur, ça te crée une autre frustration qui, à mon avis, est voulue, c'est que tu ne peux pas jouer le perso dans la façon que tu veux. Tu es dépendant de ce que le jeu veut bien te donner de façon aléatoire. On n'est pas dans un Splatoon où au final tu choisis l'équipement et t'as quand même une capacité qui est assurée sur ton équipement, le reste est aléatoire, ok. Mais c'est tu ne sais même pas comment tu vas pouvoir jouer, et c'est un petit peu dommage en fait. Enfin, c'est ça qui pose à mon sens problème d'un point de vue gameplay, c'est que on te crée de la frustration en t'empêchant de jouer ton personnage comme t'as envie parce que tu n'es pas sûr d'avoir ce que tu veux.
Et on te crée de la frustration et on t'encourage derrière à passer à la caisse en te disant, bah voilà, mais si tu dépenses 30€, tu vas pouvoir acheter une douzaine de lootbox, et peut-être que dedans tu auras un truc qui te permettra de jouer comme t'as envie de jouer. Le truc pervers, moi je trouve que c'est surtout ça, c'est te dire, bah ouais, mais attends, si tu passes à la caisse, tu as une chance. On a pas dit que tu allais automatiquement l'avoir, hein, mais tu peux pas acheter directement la grenade qui te plaît bien, ou le fusil à pompe qui te permettra de jouer comme tu aimes jouer à ce genre de jeu là. Non, tu passes à la caisse et tu as une chance sur trois dans ce cas-là d'obtenir ce que tu veux. Et puis si ça marche pas, bah tu vas toujours repasser à la caisse pour de nouveau avoir une chance sur trois, mon ami. Ça se passera très bien. C'est surtout ça qui est problématique. C'est le fait que finalement, si on te disait, bah voilà, pour tu vas farmer pendant 3-4 parties, pouf, tu pourras aller récupérer le fusil à pompe que tu veux, moi ça me pose aucun problème. Si on dit, bah farmer 3-4 parties ou payer 20 centimes, à la limite, pourquoi pas, les gens veulent jouer tout de suite à ce qu'ils ont envie de jouer, c'est leur problème, là, d'une certaine manière. Maintenant, si on te dit qu'il faut farmer 40 heures pour juste avoir un truc de base, là, ça devient plus problématique. Et puis si on te dit bah faut payer pour avoir une chance de peut-être avoir un truc qui te plaît, là, c'est encore pire.
Sachant que déjà, tu as payé 60€ pour jouer à ton jeu le jour de sa sortie, et que ça veut être un jeu multijoueur compétitif. Donc avec des scores,
des classements en ligne, des tournois, voilà, et ainsi de suite.
Tout un tas de systèmes qui font que tu vas peut-être avoir plus envie de te payer pour être plus fort. Et c'est là où en fait on va revenir à un truc dont on avait parlé il y a quelques semaines, qui était l'algorithme dont le brevet... c'est un brevet d'Activision. Qui parle d'un algorithme qui avait à te mettre contre des joueurs qui étaient bons, qui avaient du matériel qu'ils avaient acheté avec des microtransactions ou de unbox, peu importe, pour donner envie de le faire, et que les parties d'après tu serais matériel, tu pourras le tester contre des joueurs contre qui tu seras avantageux pour dire, ah bah ouais, t'as quand même bien fait de faire cet achat, tu vois. Donc ça peut créer un vrai système pervers si tu combines aussi cet aspect algorithmique que nous, on n'a aucune chance de voir dans le jeu, en tant que joueur, à des trucs type microtransactions qui t'obligent à payer pour pouvoir aller plus vite ou être plus fort.
Il y a effectivement un double problème, et c'est bien de le signaler, parce qu'il y a effectivement tout ce qui est visible. Donc on en a parlé tout à l'heure, le fait que par exemple les autorités chinoises, pour autoriser Overwatch, Blizzard, Activision Blizzard, a dû dire exactement quel était le pourcentage de réussite ou le pourcentage de distribution d'un certain nombre de, comment dire, de costumes, de skins et ainsi de suite. Ce qu'il y a dans les lootbox, en fait, ils étaient obligés de dire, bah voilà, il y a une chance sur 60 d'en avoir un, par exemple.
Oui, des raretés. 10%
de chance, t'as une espèce d'indice de rareté qu'ils ont été obligés de dévoiler. Cette chose-là, à l'origine, c'était leur sauce. Finalement, dans un jeu d'argent traditionnel, tu vas à la Française des Jeux, tu peux aller demander bah, combien il y a de tickets gagnants pour tel jeu de grattage, par exemple. Tu peux aller demander combien il y a de tickets gagnants pour combien de tickets édités. C'est une information qu'ils sont supposés te donner. Dans un jeu d'argent, tu es censé savoir quelles sont tes chances. Sinon, le jeu d'argent est nécessairement non équitable vis-à-vis du joueur. Quand tu joues à la roulette, tu sais que de toute façon, il y a 37 cases et que tu as une chance sur 37 de gagner si tu paries sur un nombre. Et tu as 15 chances sur. Attends, c'est 15 chances. Non, c'est 17 chances sur 37 de gagner. Non, 16 chances sur 37. Ah merde, je me souviens plus. 32. Bon, je sais plus, c'est pas grave.
Prenez un chewing-gum, Emile.
Prenez un chewing-gum, Emile. Enfin bref, les j'ai statistiques. J'ai compris là. Ah, c'est énorme.
Incroyable.
Un film des années 90. Donc tu sais exactement les chances que tu as de gagner au blackjack, tu sais les chances que tu as de gagner au poker, tu sais les chances que tu as de gagner, et même d'une certaine manière, les casinos ont intérêt à ce que tu les connaisses. Parce que comme ça, si tu perds, tu perds en toute connaissance de cause. On t'avait dit, il y a une chance sur 5000, t'as joué, t'as perdu, tu peux pas venir te plaindre. Là, un des problèmes de l'autorité chinoise de régulation de ça, c'est de dire, mais attends, et si vous les affichez pas, ça nous pose un problème. Maintenant, le souci, c'est que même si on les affiche, donc même si l'éditeur est finalement honnête en te disant, bah, y a 10% des lootbox qui contiennent tel truc, pourquoi pas, eh ben, on te cache effectivement tous les algorithmes derrière qui, dont l'objectif est de te donner envie d'aller les récupérer. Effectivement, ce système de matchmaking qui va faire que tu tombes que sur des joueurs qui ont de l'équipement acheté. Un système qui fait que, je sais pas, à chaque partie, tu vas te retrouver avec un équipement différent, qui sera équipé juste pour la partie, mais que derrière, tu n'es obligé d'acheter si tu veux le garder. Ce genre de choses-là. Ce qui est quand même des systèmes ultra vicieux dans le principe. Et je pense qu'il y a aussi ça que le régulateur va peut-être commencer à regarder de plus près. Que les États vont commencer à regarder de plus près en se disant, bah tiens, est-ce que c'est normal qu'on laisse faire des éditeurs, qu'on laisse aller pervertir notre belle jeunesse avec ce genre de système-là qui sont quand même ultra vicieux, ultra séditieux, et surtout qui ne sont pas clairement affichés.
Et surtout qui peuvent s'apparenter aux jeux d'argent. On rappelle que le jeu d'argent, et notamment dans le cas de la France avec la Française des Jeux et PMU, c'est des choses qui sont très régulées par l'État.
Et c'est un monopole d'État. Il faut avoir une licence pour pouvoir faire du jeu d'argent normalement.
En France,
si on est un casino.
Donc en gros, ça pose souci aux États que le jeu d'argent qui est censé être sur leur régulation puisse apparaître dans un médium sur lequel ils n'ont aucun contrôle. Je pense que c'est aussi une partie des raisons pour lesquelles les gouvernements se mobilisent actuellement. En France, on a un sénateur, alors je vais retrouver le nom en quelques secondes, le temps de scroller dans mon article. Tac 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 tac. Eh ben merde, il peut pas le mettre au début, c'est connard. Ah oui, Jérôme Durin, donc sénateur de Saône-et-Loire, qui apparemment
on embrasse, hein.
Est plutôt proche.
Hein, et qui ont fait des bisous, bien évidemment. Hein.
C'est lui qui a plus ou moins déclenché la chose en France en faisant une lettre à l'ARJEL, donc l'autorité de régulation des jeux en ligne, ainsi qu'à nos amis du CEL ou du UFC Que Choisir, pour leur parler justement du problème que suscitaient les lootbox, notamment dans le dernier Star Wars. Donc il y a aussi une... on commence à rentrer petit à petit aussi dans un débat où les États... notamment l'État français, vont commencer à intervenir.
Et croyez-moi, si quelqu'un vous balance, vaut mieux pas qu'il vous balance à l'État français, parce que c'est de ce point de vue-là, d'une certaine manière, heureusement pour nous d'ailleurs, l'État, notamment l'État français, est quand même extrêmement strict là-dessus. Je vous rappelle que l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, rigole absolument pas sur ce genre de sujet. Ça fait partie des prérogatives de l'État, effectivement, d'éviter que les jeux d'argent deviennent le grand n'importe quoi. Et donc, le fait qu'il y ait effectivement une partie de ces jeux d'argent qui échappe à toute régulation, c'est-à-dire que finalement, les mecs n'ont pas de licence, donc ils payent pas d'impôts spécifiques vis-à-vis de l'État, c'est un vrai problème pour l'État, c'est des recettes en moins, c'est quand même vrai. Mais le fait est, l'État s'assure aussi que le jeu d'argent est fait de manière équitable. Ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de dire qu'au loto, on a une chance sur 1 million de gagner, bah, ça veut dire que t'as pas beaucoup de chances de gagner, donc on va dire que c'est pas équitable, mais non, parce qu'on te l'a annoncé, on t'a clairement dit au départ, t'as une chance sur 1 million de gagner, et l'État te garantit que tu as effectivement une chance sur 1 million de gagner. Donc il y aura forcément, sur 1 million de joueurs, probablement un gagnant. C'est quand même pas rien non plus, parce que les casinos malhonnêtes, ça a existé, et ça pose un vrai problème aussi, parce que tu peux très bien te faire complètement flouer par un casino qui est effectivement malhonnête, et c'est très compliqué d'arriver à dénoncer un casino malhonnête ou à dénoncer ce genre de choses-là. Donc les casinos sont extrêmement contrôlés, et on s'assure qu'effectivement la roulette n'est jamais truquée. Les roulettes sont contrôlées par des agents de l'État, par exemple. C'est un truc qu'il faut savoir, dans les casinos, avant l'ouverture du casino, c'est un agent de l'État qui vérifie que les roulettes ne sont pas plombées, qui vérifie que les dés ne sont pas pipés, et ainsi de suite.
Du coup, est-ce que les loot box vont être ouvertes sous contrôle dissué?
Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut ouvrir les loot box sous contrôle dissué toutes avant qu'elles arrivent au joueur,
hein,
pour contrôler qu'elles soient bonnes.
Imagine qu'en France, à chaque fois que quelqu'un ouvre une loot box, il y a une connexion qui part
dans
du
un
serveur
open space,
du jeu,
quoi.
Qui va jusqu'à au serveur
de l'Argel.
De l'Argel, qui c'est bon, il l'a fait.
Attends,
vous
rigolez.
Incroyable.
Attends, c'est incroyable comme système antique, mais tu rigoles. Mais le fait est que techniquement,
c'est jouable.
Non, mais c'est pas. Oui, c'est jouable.
C'est faisable. Hein,
techniquement, c'est faisable. Le fait est que l'État serait en droit d'aller contrôler le fait si c'est déclaré comme des jeux d'argent. Alors même si c'est des jeux d'argent peut-être d'un type un peu particulier. Donc déjà, ça veut dire que Ubisoft, Electronic Arts, tout ça serait obligé d'acheter une licence auprès de l'Argel ou auprès de la Française des Jeux pour pouvoir exploiter ces jeux-là, ce qui leur coûterait très cher, et à mon avis ils vont juste arrêter parce que ça leur coûterait très cher.
Surtout ils doivent le faire
tant
dans
mieux.
Absolument tous les pays
dans lesquels
ils vendent leurs jeux.
Exactement.
Alors, sur le continent américain ça ira, hein, il y en a que deux ou trois.
Ah,
en Europe,
non. Sur le continent américain t'as 50 états à faire, hein.
Ouais, 50 états où ils vendent des jeux vidéo.
Où ils vendent des jeux vidéo, et surtout 50 états où il y a une commission du jeu, c'est-à-dire qu'il y a des états dans lesquels les jeux d'argent sont extrêmement régulés, il y a des états dans lesquels ça l'est moins, mais tous les états américains ont grosso modo leur équivalent de la française des jeux.
Ah oui, tu pensais les états américains, effectivement. D'ailleurs, l'état d'Hawaï a clairement dit que c'était du jeu d'argent.
Oui, il y en a quelques-uns d'états américains, le problème c'est que comme ils sont tous indépendants, si tu veux, il n'y a pas une réponse fédérale aujourd'hui là-dessus.
Oui.
Contrairement à l'Australie qui a vraiment donné une réponse à une fédération.
Et quand on voit qui est à la tête de la partie fédérale...
Ce
serait bien
pas.
Un truc qu'il aurait inventé, lui. Hein.
Je ne sais pas. C'est compliqué.
Plus,
mais
je ne vais pas aller m'avancer là-dessus. Mais bref, je finis là-dessus. L'État serait en droit d'aller contrôler que si les mecs disent tel équipement, il a une chance sur 100 de tomber, l'État serait en droit d'aller réclamer les données pour dire est-ce que c'est bien vrai. Et le problème, il va se poser de nouveau, c'est il va falloir que Ubisoft, Electronic Arts... Faudra en citer un troisième, tu vois, pour que... Voilà, mais bon.
Activision.
Blizzard Activision.
Parce qu'il y en a dans Call of Duty.
Voilà, il va falloir qu'ils ouvrent, du coup, leur système d'information pour que l'État puisse venir contrôler que c'est bien, effectivement, le tirage qui a été fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arnaque là-dedans. Je ne sais pas si vous imaginez ce genre de choses-là. C'est-à-dire que la recette secrète et le fameux algorithme super secret d'Activision, il va falloir que les mecs l'ouvrent à l'État. Français, mais pas forcément français, hein. Allemand, belge, italien, voilà, Hawaï, l'Utah et ainsi de suite, pour que tous ces États puissent vérifier que c'est pas une arnaque, qu'ils n'ont pas dit 1 sur 100 alors qu'en réalité c'est 1 sur 200 et que du coup le jeu ne serait plus équitable.
Sachant qu'en plus, on reste quand même dans une industrie où le secret est primordial, je vois très très mal des entreprises comme Electronic Arts ou Activision, ou peut-être même Ubisoft d'ailleurs, donner accès à des États, on parle de gouvernement complet, hein. Accès à des données aussi importantes pour eux, quoi.
Non, mais plus pire que ça, c'est dès que tu parles de systèmes d'information et de collecte de données et de choses comme ça, ça devient beaucoup plus compliqué de donner des accès. Aujourd'hui, les casinos en ligne qui ont pignon sur rue en France, ils sont en général français, pour une raison très simple, c'est que les États ont déjà finalement les doigts à l'intérieur du système d'information des casinos. Donc ça leur pose pas plus de problèmes que ça, ils sont déjà organisés pour ça. Ubisoft n'est absolument pas organisé pour être capable de donner à l'État accès à ce type de données.
Oui,
sans compter que l'État serait en droit d'aller faire des contrôles beaucoup plus poussés pour dire est-ce que voilà, vous me dites il y en a 1 sur 100, c'est ce que vous affichez, vos statistiques confirment qu'il y en a 1 sur 100, est-ce que vous les avez pas trafiqués? Et donc ça veut dire qu'il faudrait faire intervenir un tiers pour aller vérifier que les statistiques d'Ubisoft sont faites correctement. Donc, je sais pas si tu vois un peu le bordel que ça peut donner.
Ah, clairement, mais en fait, enfin, de toute façon, ce serait logique. Mais parce que si c'est régulé, ça demande forcément beaucoup de vérifications et c'est très procédurier. Et oui, comme tu dis, Ubisoft n'est pas du tout préparé à ça, mais en fait, globalement, aucun éditeur n'est préparé à faire ça. Donc,
Et surtout
voilà,
que
donc, la
quand ils
de
doivent
l'histoire...
le faire, ils le font pas.
Oui,
Blizzard.
En plus,
quand il a dû filer les registres, il a fait « Non mais on vous a déjà filé les pourcentages, on va pas vous filer les registres. » Et ils ont passé leur système de lootbox en Chine à « On vous achète de l'argent et on vous file des lootbox gratos avec l'argent. » Donc hop, hop, ni vu ni connu, c'est plus un jeu d'argent.
Et... Mais, non mais c'est exactement ça. Le plus problématique, c'est quand même que les mecs aujourd'hui, ils bottent en touche parce qu'ils se disent « Bah ouais, on a voulu jouer
mais
au casino. »
Mais parce qu'ils peuvent, parce qu'on les laisse hein, en soi.
Ah,
parce que c'est,
parce
ce que je trouve ultra triste, c'est que on dit ouais machin les jeux d'argent c'est pas bien, d'accord, il y a les pourcentages qui ont été dévoilés, en soi d'abord ça parle pas à grand monde, parce que se dire que j'ai 20% de chance de tomber sur une rare, Bon, déjà, faut voir, par exemple, dans Heroes of the Storm, donc le MOBA de Blizzard, faut voir ce que ça veut dire une rare, faut voir ce que ça correspond en jeu, à quoi ça correspond en jeu, etc. Donc déjà, dire t'as 20% de chance de tomber sur une rare, ça donne pas, enfin ça, comment dire, ça te renseigne pas sur l'équité du jeu. Et en plus, quand on a les infos à dispo, par exemple, bah, le brevet d'Activision qui est clairement en train de, enfin qui est disponible quoi, et qui dit clairement bah le matchmaking il est fait pour que t'achètes. Genre tout le jeu c'est une machine à cash.
Officiellement,
personne ne fait rien.
Officiellement, cet algorithme n'a pas été mis en place. C'est un projet développé par deux personnes de façon indépendante d'Activision.
Bah ouais, mais
oui,
c'est quand même
pas
un
responsable
truc
de ce que font non, mais, nos développeurs.
Je veux dire, c'est quand même un brevet. Et genre, il y a eu quoi ? Il y a eu quelques articles en disant oh là là, lol, regardez ce qu'ils ont fait. Et personne n'a réagi en mode vous imaginez si c'est dans un jeu et personne n'a vraiment analysé quel effet ça pourrait avoir sur un jeu, quoi. Et je trouve ça ultra triste. De se dire
ça,
que même quand on a un truc,
elle se pose pas trop de questions,
même,
malheureusement.
Enfin, même sur Internet, j'ai pas vu de réaction comme on a pu avoir sur d'autres trucs, même sur Reddit, tu vois.
La remarque que j'ai vue la plus intelligente à ce sujet, c'est le mec qui a précisé. Alors, les deux gars qui ont développé, je pense pas qu'ils aient fait ça dans leur coin en indépendant, parce qu'il y en a un, les deux occupent maintenant des postes plutôt élevés dans la hiérarchie d'Activision. Donc c'est là où tu dis que non, ça sort pas de nulle part.
Genre, pourquoi Activision, parce que ça coûte de l'argent un brevet. Pourquoi, enfin, ça, à l'échelle d'une entreprise, ça doit pas être grand chose, mais
si, ça coûte quand même pas rien. Hein.
Ah ouais, d'accord.
Ah oui, non, c'est pas donné. Hein.
Enfin, c'est
renouvelé. Hein.
Je veux dire, enfin voilà quoi, tous les ans ils doivent quand même dépenser du fric pour protéger ce brevet. Donc c'est pas deux indés, ils vont faire croire à qui que c'est deux indés et que ils sont gentils et qu'ils protègent le brevet pour eux.
Non, mais c'est, enfin, à partir du moment où les mecs ont fini dans la hiérarchie d'Activision, tu te doutes bien que leur idée, ils l'ont pas laissé pourrir dans un coin, quoi.
Ouais, totalement, c'était pas.
Enfin bref,
c'était pas notre.
Aujourd'hui,
quoi.
Ce que je constate, c'est que Activision, Electronic Arts, Ubisoft, tout ça, ils jouent un petit peu au casino sans en avoir réellement les moyens et surtout en essayant de se planquer le plus possible.
Ceci dit, Ubisoft, il n'y en a pas tant que ça de lootbox. Enfin, l'autre gros, c'était Warner, hein, et avec Shadow of Mordor. D'ailleurs, c'est plus,
ouais,
c'est plus lui qui était problématique récemment.
C'est totalement minime, hein, d'après ce que j'ai vu dans Canard PC, ils en parlaient. Il a dit qu'à aucun moment il a ressenti le besoin dans la campagne solo ou même en multi.
Oui,
il a présenté
le
besoin
déjà
d'acheter quelque chose. Oui, mais je veux dire, je suis totalement d'accord, et c'est pour ça que par exemple dans les microtransactions dans Assassin's Creed Unity, ça m'a totalement dérangé.
Que ce soit optionnel ou pas, ne change rien au fait que c'est un jeu d'argent.
Non, totalement.
Ça,
non,
ça
mais ce que je veux dire, c'est que.
Mais, par contre, effectivement,
c'est
d'un
que
point
ça,
de vue.
Ah bah, ça
équité,
en partie dans le sens
non,
où.
D'un point de vue équité vis-à-vis du joueur, ça me paraît normal que quelqu'un qui a dépensé du pognon pour le jeu, si le mec a envie derrière de se faire plaisir et d'acheter un truc, pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas. Le fait que, je sais pas, les mecs de Team Fortress 2 te vendent des chapeaux derrière, t'as envie d'acheter un chapeau, mais fais-toi plaisir, y a pas de problème, j'ai absolument aucun problème avec ça. T'as envie d'acheter un truc qui n'a aucune valeur marchande derrière et qui est complètement débile, fais-le. Pas de souci. Maintenant, fais-le en toute connaissance de cause, et quand t'as acheté le jeu, bah, dis-toi qu'effectivement t'as déjà payé 60 balles pour ça, donc t'as aucune raison d'aller rajouter du pognon derrière dedans. Bon, c'est surtout ça. C'est une fois que t'as payé ton jeu plein pot. Forza, moi ça m'avait choqué, j'avais été chez un collègue pour l'essayer sur Xbox One.
Et Vafam.
C'était le premier Forza qui sortait sur Xbox One, la console avait 2 semaines, genre. Et en fait, quand t'étais dans le menu principal, tout était payant. Mais clairement, le truc t'annonçait la couleur, c'est-à-dire que tu voyais 10 000 monnaies du jeu, 3 euros. Mais il y avait vraiment écrit 3 euros. Moi, je trouvais ça super choquant. De me dire, putain, j'ai payé ma galette 60 euros, j'ai payé ma console 500 balles, je rentre chez moi et le truc me dit, ah bah ouais, mais pour 3 euros, t'as tout de suite la Ferrari, dis donc. C'est quand même drôlement bien.
Et même pour quitter le jeu. Ferrari.
Non mais, c'est juste ouf, quoi. Je l'ai payé, le jeu, tu vois, l'asset, je l'ai payé aussi. Les développeurs, je les ai payés. Qu'est-ce qui justifie le fait d'aller me refaire passer à la caisse pour un truc que j'ai déjà payé ?
Ah bah c'était toute la question des microtransactions il y a quelques années. C'était dans Need for Speed, je crois, si je dis pas de bêtises. Où tu voyais une voiture dans la rue, tu pouvais entrer dedans et non, attends, qu'est-ce que je dis ? Je dis de la merde. Non, ça devait être dans
un jeu. Ça n'a rien à voir.
Non, ça devait être dans un jeu mobile. Non mais en gros, dans la vraie vie, t'as dit dans ce gars. Non mais en gros, t'avais, je me rappelle plus quand. Je veux pas dire n'importe quoi. Où t'avais un jeu qui était clairement dans les fichiers du jeu, et quand tu rentrais dedans, le jeu te disait, tu veux la conduire, paye. C'est le...
Oui, c'était le fameux truc où il fallait remettre de l'essence. Il n'y a pas un jeu Need for Speed sur mobile qui faisait ça aussi, où il fallait acheter de l'essence.
Je me rappelle plus. Enfin, t'as clairement, tu te dis, mais en fait, le jeu t'appartient réellement. C'est-à-dire, l'asset, il est bien là, la voiture est modélisée puisqu'elle est devant toi, elle doit être jouable puisqu'elle est devant toi, mais non, tu payes 3 euros pour la clé de la bagnole, quoi. Je veux dire, alors que bah elle est dans ton jeu, et je trouve que c'est les limites, et c'est pareil avec les lootbox et Electronic Arts en soi, c'est-à-dire que Star Wars, les persos sont indissociables de l'univers. Je veux dire, tu débloquerais, je sais pas moi, un casque... un casque de soldat.
Tu débloquerais tu débloquerais un tampon Alliance Rebelle pour ton casque.
Oui, voilà, okay, c'est ça.
Ok, rien à foutre, quoi. Ok, très bien, y a pas de soucis.
Je sais pas, moi, même un haut de forme pour ton rebelle. Bon, voilà, c'est drôle, et comme dans Team Fortress 2, tu t'en fous, dans l'absolu. Mais à partir du moment où tu dois débloquer Dark Vador, et puis que le jeu te dit clairement, mec, tu vas devoir passer à la caisse et espère pas le débloquer en jouant, c'est là que c'est problématique.
C'est même plus que Dark Vador, c'est qu'en fait, la compétence qui te permet de réduire, d'augmenter ta cadence de tir ou la durée de ton bouclier de 2 à 3 secondes, bah tu l'as dans la loot box.
Ah pas oui, autrement. C'est vrai que c'était des cartes aussi. Oui, ah voilà, oui, c'est... et les mecs avaient fait les personnages, des cartes.
C'est 2100 euros ou 4528 heures de jeu.
Ouais, c'est ça. Dans Battlefront 2, faut savoir que ton perso, à la manière de Titanfall, Titanfall 1, ça arrivait plus tard,
alors,
c'est pas arrivé à la sortie.
Précisément, mais environ 2, 2100 euros d'achat ou 4528 heures de... Alors, 2100 euros d'achat de coffre aléatoire, hein, et 4528 heures de jeu pour accéder à l'intégralité du jeu.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que t'as des cartes, en fait, qui augmentent ton perso.
188 jours.
Et t'as des cartes qui augmentent
188 jours plein, sans dormir, sans manger. Hein.
Putain, t'es sur un jeu perso, donc voilà.
Sur un jeu Electronic Arts.
Mais payant, surtout.
Je recommande énormément de lire le test de Gamekult, où Stoon, le testeur, décrit vraiment tout le processus de progression du jeu. Et que plus tu avances, plus tu comprends qu'en fait, chaque étape de progression du jeu, même sans parler des cartes ou des personnages, même les classes les niveaux de classe ou les niveaux d'armes, peuvent être compensés par des achats dans le jeu. C'est ultra pervers comme système. Et franchement, les personnages, pour moi, c'était vraiment le sommet de l'iceberg. Quand j'ai découvert cette histoire de StarCart avec des compétences qui en plus ont des raretés, donc elles sont plus puissantes si elles sont violettes que si elles sont blanches. Et c'est quand même super difficile d'avoir des violettes parce qu'il faut des tas de matériaux que tu obtiens aussi dans les loot box. Tu te dis, mais...
c'est pas et le alors, problème, dans Titanfall, en fait. C'était déjà présent, et je sais que j'ai joué un petit peu au 1. Et le truc, c'est que dans le 1, t'as des cartes comme ça, mais qui sont arrivées plus tard, pour le coup, pas à la sortie du jeu, ce que je trouve peut-être plus pervers, d'ailleurs, c'est qui en fait, améliorait tes stats, mais c'est-à-dire que la carte, tu l'utilisais une fois. Donc, ce qui faisait que, par exemple, moi, j'y vais peut-être une fois tous les deux ans sur Titanfall, quoi, clairement. C'est-à-dire, j'ai des cartes à plus savoir qu'en foutre, et je les utilise pas, et ça me pénalise pas plus que ça. Et pour le coup, c'est vrai que quand tu vois que là, ça augmente les stats de ton perso, donc c'est-à-dire que ça impacte directement le gameplay, c'est pas genre ta visée, elle est un peu plus efficace, non, c'est clairement genre ton bouclier se recharge plus vite, t'as une plus grande cadence de tir, c'est ultra malsain, c'est-à-dire que c'est clairement un pay to win que tu payes 60 euros.
Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, si le jeu était gratuit à la base, à la limite, ça n'a peut-être pas grand-chose à en dire.
Bah non, parce que c'est le modèle, quoi. Le pay-to-win, c'est le modèle des free-to-play.
Moi, je pense que EA a clairement pété un plomb là-dessus. Enfin, je veux dire, à un moment, ils ne se sont pas rendus compte, au moment de la conception du jeu, que ça allait pas passer si facilement que ça, et qu'effectivement, ça allait peut-être gueuler. Enfin, je sais pas,
Le truc, c'est que
le retour de bâton paraissait prévisible, personnellement.
C'est passé sur Mass Effect 3, comme vous l'avez
Mass
dit au début de l'émission.
Mass Effect 3 était un jeu moins...
En multijoueur, d'accord, là, y a, pour le coup, en multijoueur sur Mass Effect 3, à mon avis, il n'y a pas grand monde. C'est passé sur Assassin's Creed Unity, où les microtransactions étaient... Je ne sais pas si c'est le premier, encore une fois, en solo. Hein. Mais où les microtransactions étaient dans le jeu solo, moi, ça m'avait choqué à l'époque. Les gens, ils étaient là, ouais, mais ça pose pas trop de problèmes. D'accord, t'as payé ton jeu 60 euros, est-ce que clairement, t'as envie de... Enfin, t'as envie. Est-ce que clairement, c'est normal de débloquer des coffres. Parce qu'en plus, ah oui, c'est ça, c'était des coffres dans l'open world que tu débloquais avec des clés que tu payais.
Oui, d'accord, c'est complètement con.
Et donc, du coup, c'est encore une étape. Et à force de tout laisser passer comme ça, on va arriver avec des jeux qui vont être là pour le coup vraiment pay to win. On va plus pouvoir rien faire. Et les gens, les éditeurs, ils vont nous dire « Ouais, mais vous avez laissé passer ça, ça et ça. » Bah écoutez, vous avez acheté notre jeu, fallait accepter les conditions, voilà. Quoi.
Donc on revient au truc de base, pour conclure cette émission, hein, donc je vous rappelle, votez avec votre portefeuille, n'achetez pas ce genre de saloperie-là, peut-être qu'un jour ils arrêteront, et comme c'est visiblement pas suffisant, gueulez. Hein, je pense qu'effectivement, à un moment, il faut se faire entendre, il faut aussi dire, c'est quand même pas normal, c'est des pratiques qui sont déloyales dans le pire des cas, et puis qui sont même parfois franchement vicieuses, fallacieuses, et qui pourraient donner lieu. L'UFC Que Choisir a en général les oreilles très grandes ouvertes sur ce genre de choses-là, ça leur fait très plaisir de pouvoir tomber sur la gueule du sel et des éditeurs de logiciels très régulièrement. Donc n'hésitez pas, ouvrez votre gueule, ils sont là pour ça aussi. Hein. Les associations de défense des consommateurs sont aussi là pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, parce que ça reste un produit de consommation, comme les autres. Voilà, nous allons nous quitter sur cette émission qui a duré beaucoup trop longtemps. Mais c'est pas grave, parce que c'était vraiment intéressant, vous avez vraiment... Les gars, je vous félicite, vous avez vraiment balayé le sujet, mais alors de manière magistrale.
Chez nous, l'option est gratuite, donc ça va.
Alors non, parce que la conclusion, vous l'avez pour seulement 2€. Vous pouvez envoyer un mortal@nintendojo.fr, c'est mon PayPal.
On a été racheté par Warner Bros, désormais la version longue... sera disponible en DVD
Seulement sur Tipeee pour les gens qui donnent plus de 15€ par émission.
Et pour les 3 personnes qui trouvent ma voix super sexy à partir de maintenant, il faudra l'obtenir dans une lootbox.
Autrement, j'aurais une voix comme ça nasillarde, un peu comme à l'époque de l'RTL, vous voyez.
Et puis moi je vais parler comme ça.
Mais c'est toujours comme ça que tu parles. Attendez. Bref, on se quitte sur ces fortes paroles. C'était vraiment très intéressant, messieurs. Je vous remercie de votre présence.
C'était vraiment très intéressant.
Intéressant.
C'est de plus en plus sérieux, hein, le Dojo Bar.
Alors, tu vois, il y a des émissions sérieuses où finalement, je trouve qu'on se fait un peu chier parce que c'est trop sérieux. Là, c'est sérieux et on arrive quand même à mettre des blagues.
Donc, sexe, bon. Drogue, lootbox, différentes.
La darksoulisation du jeu vidéo.
Darksoulisation du coffre du JRPG par les Américains.
Au cœur du phénomène. Nous vous retrouvons dans la petite boîte indé des Chronic Arts.
Eh bien, écoutez, il y a l'air d'avoir 4 items autour de nous. Bref, on va arrêter là parce que sinon ça va vraiment partir en couille. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas quel sera le sujet de l'émission la semaine prochaine, comme c'est la fin de l'année, c'est un peu le bordel. Mais c'est pas grave, on va bien trouver quelque chose. Voilà.
Le sujet Londres, les fast-food ne pourront plus être situés à moins de 400 mètres d'une école selon Le Monde.
Non, mais ta mère.
Bah, il y a Xenoblade 2.
Il y a Xenoblade 2, mais je pense qu'on n'aura pas le temps ni de le finir, ni même de le commencer.
À mon avis, on peut faire une émission complète sur la voix anglaise de Pikachu.
Je pense qu'on en parlera en janvier. Voilà, c'est tout ce que je dis.
La voix anglaise de Pikachu, on peut faire une bonne émission.
Ça suffit.
Non, non.
Voilà. Merci de nous avoir suivis. Bisous tout le monde, ciao.
Bisous.
Salut.
Bye. Salut, parce que le au revoir, c'est... Ok.